Chapitre 5e, Ginetta. Un soir, Martin Huma va me retrouver dans le petit café habituel et me dit « Lisez donc ceci ». Il me tendit les spores, me désignant un endroit dans une colonne. J'y lus, non sans une forte émotion, ces quelques mots. Le second prix du tir au pigeon de Gênes a été gagné par l'adroit tireur Baron Pompéry. Je regardais Martin Huma avec une grande anxiété. Mon ami souriait, tout en se grattant, d'un geste qui lui était habituel, le menton, et en clignant légèrement des yeux. Peu après, nous remontions chez nous, et comme un taxi se trouvait au coin de la rue de Châteaudun et du carrefour Montmartre, qu'il commençait à pleuvoir, Martin Huma me dit « Montons. Inutile de nous faire mouiller et de nous enrhumer. Je vous reconduis jusque chez vous. » Nous montâmes dans le taxi qui, tranquillement, se mit à gravir la rue glissante de Notre-Dame-de-Lorette, semblant se diriger vers la place Blanche et la rue Lepic. Mais arrivé à la hauteur de la rue Chaptal, brusquement, le chauffeur, sans qu'aucun ordre lui ait été donné, obliqua. Il s'engagea dans cette rue et fila à une grande allure. Depuis longtemps, j'avais reconnu une des voitures de Martin Huma. Le disque était apparu au-dessus de la glace de devant, disant à Martin Huma « Tout va bien, nous avons semé les gens qui nous suivaient. » Martin Huma, alors, s'enfonçant dans le fond de la voiture, étendant aussi commodément que possible ses longues jambes, tira son étui à cigarette, disant « Nous pouvons alors fumer tranquillement jusque chez le chevalier Fontis, qui nous attend pour dîner. » Nous arrivâmes chez le chevalier Fontis. Le vieux Pietro nous introduisit dans la bibliothèque comme de coutume. Le chevalier ne tarda pas à faire son apparition, et en nous tendant les mains. « Mes chers amis, nous dit-il, je vous remercie d'être venus. Vous me faites le plus grand plaisir. » Après les compliments d'usage, nous parlâmes de choses et d'autres, puis Martin Huma tira de sa poche les spores, dont il m'avait donné connaissance, et mit sous les yeux du chevalier l'entrefilet qui m'avait causé une si forte émotion. À son tour, le chevalier tressaillit. Il demanda à Martin Huma « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Martin Huma répondit avec son sourire sceptique « Cela veut dire, chevalier, plusieurs choses, voyons. Cela veut dire que l'homme que vous avez expédié chez Pluton d'un si beau coup d'épée est ou n'est pas le baron Pompéry. Oui. Cela veut dire qu'il existe un autre baron Pompéry. Encore. Cela veut dire aussi que nos ennemis, fortement gênés de voir un cadavre en notre possession, ont imaginé un nouveau baron Pompéry qui réduira néant celui que nous tenons. Que concluez-vous? Et à quelle opinion vous arrêtez-vous? À celle-ci. On veut donner le change, non seulement à nous, mais à l'opinion publique. On tient à faire savoir que l'absence du baron Pompéry, qui a pu être remarquée depuis la nuit tragique, ne doit pas être regardée comme anormale puisque le baron Pompéry a tué des pigeons dans un concours. Donc on n'a pas à le rechercher. Martin Huma ajouta « Il est cependant une chose qui doit nous donner une indication assez sérieuse. C'est que parmi les gens qui d'habitude se trouvent autour du marquis Primo di Carmine Santucci et du prince Ramolino, mes agents ont remarqué qu'il s'était produit quelques vides. Entre autres, mon fidèle Prosper, qui s'est attaché tout spécialement à la surveillance de son rival, ou plutôt de celui qui l'a supplanté dans les bonnes grâces d'Octavie. Mon fidèle Prosper, dis-je, n'a pas vu depuis plusieurs jours cet homme qui danse si mal et qui se dit espagnol. Vous supposez donc que cet homme s'est fait passer là-bas pour le baron Pompéry ? Martin Huma répondit. Mon cher chevalier, vous savez que je ne suppose jamais rien, et que je me garde de toutes sortes de présomptions. Mais j'ai constaté qu'après la nuit tragique, il y a eu comme une envolée de nos gaillards. Ils se sont dispersés, ce qui était d'ailleurs de très bonne prudence, admirable tactique, et ils ont dû aller attendre plus loin que le calme soit revenu ici. Pendant un assez long moment, nous discutâmes sur ce point. On envisagea plusieurs hypothèses, et Martin Huma, ayant conclu qu'il ne fallait pas trop disserter dans le vide, ayant rappelé qu'il était dans ses habitudes de ne marcher que sur un terrain sûr et non d'après les probabilités, on changea de conversation. Alors le chevalier nous dit « Ce soir, nous ne dînerons pas tous les trois en garçons. Une femme voudra bien nous tenir compagnie. Une jeune femme charmante et qui pourra rivaliser de grâce et de fraîcheur avec les fleurs dont pour elle, mon vieux Pietro a garni la table. » Il ajouta « En tant que Sicilien, je suis très superstitieux. Depuis que la Focamore est venue ici, dans cette maison, mon vieux Pietro, qui est encore plus superstitieux que moi, trouve que d'avoir brûlé du soufre sur le passage de cette femme n'est pas suffisant. Il m'a fait la guerre pour que, selon une de nos croyances siciliennes, l'influence néfaste d'une mauvaise robe soit chassée par la présence heureuse d'une autre robe. C'est une superstition charmante. Alors j'ai dû, moi qui ne voulais pas entendre chez moi le froufroutement soyeux des belles, céder à mon pauvre Pietro et faire venir ici une robe qui effaça le souvenir de celle de la Focamore. On ne saurait vous blâmer. Pietro m'assure qu'un nouveau parfum de poudre de riz, qu'une autre senteur de jolie femme, plus encore que la fumée du soufre brûlé, chassera de cette maison toute trace qu'aura pu laisser celle dont le passage ici est considéré par mon vieux serviteur comme un signe de malheur. Pietro a raison. Je vous ai donc prié, mes bons amis, de me faire l'amitié de dîner avec moi, parce que ce soir, je donne l'hospitalité à une jeune femme charmante. C'est une jeune artiste qui désire venir à Paris, non pas se faire entendre dans un concert ou dans un théâtre quelconque, mais simplement se fournir de costumes élégants comme seul Paris peut en créer. Un brillant engagement l'appelle en Allemagne, en Angleterre et en Amérique. Elle veut paraître dans des costumes faits pour elle. À Paris, cette ville reine du luxe qui seule sait faire valoir la beauté et le charme des femmes. Le chevalier ajouta « Ginetta Maggio ne chante pas comme la Focamore ou la Palestrini. Elle ne chante pas comme la Margellina. Elle joue du piano. C'est une très grande artiste consciencieuse et sérieuse que je connais depuis de longues années, que j'ai vu grandir, que j'aime beaucoup. » Et il reprit « Dussiez-vous sourire, mon cher Courville, cédant à votre esprit parisien, je dois vous dire que cette jeune femme est pour moi comme une bonne camarade, qu'elle vient ici comme chez un grand frère tout heureux de la revoir, et qu'il n'y a entre nous, bien qu'elle soit très jolie et tout à fait charmante, d'autres liens que ceux de la bonne amitié et de la sincère affection. » Je m'inclinai et répondis que je trouvais la chose tout à fait charmante. J'ajoutai que si elle était en dehors des habitudes parisiennes, elle n'en était que plus délicieuse. Le chevalier reprit « Ginetta me fait cette amitié, en venant à Paris, de me prendre pour cicérone et de me demander de la conduire moi-même chez les couturiers et les grandes modistes, partout où elle pourra orner sa beauté. » Le chevalier parlait encore quand on sonna à la grille. Nous vîmes le vieux Pietro, cette fois tout joyeux, un grand parapluie à la main, courir à la porte que le concierge venait d'ouvrir. Dans le jardin, une jeune femme très élégante pénétra, et s'abritant en riant sous le grand parapluie, très simplement, elle tendit à Pietro ses deux joues que sans façon le bon vieux embrassa tendrement. Nous l'entendîmes dire « Oui, Ginetta, tu es la bienvenue. Ta présence ici met vraiment du bonheur dans notre maison. » Légère, ne marchant que sur la pointe de ses petits pieds en riant sous le parapluie du vieux Pietro, elle s'avança, disant déjà bonjour de la main au chevalier, qu'elle avait aperçu à travers les vitres de la baie de la bibliothèque. Le chevalier avait ouvert la porte de la bibliothèque et il s'avança sur le perron. En deux petits pas lestes, la jeune femme sauta jusqu'auprès du chevalier. « Bonsoir, ami, » dit-elle. « Je ne vous ai pas trop fait attendre ?» Le chevalier répondit « On t'attend toujours trop lorsque tu dois venir, même quand tu es en avance, car sans toi, les heures semblent longues. » La jeune femme tendit au chevalier son front sur lequel Fontis déposa un affectueux baiser. Puis il prit la main de la jeune femme et la fit entrer dans la bibliothèque. « Je vais, dit-il, te présenter mes bons amis qui déjà te connaissent, mais qui ne soupçonnent pas combien tu es gracieuse et charmante, bien que je me sois efforcé de le leur faire comprendre. » Le chevalier nous présenta. La jeune femme nous tendit à chacun la main et nous fit don d'un sourire exquis. Ses yeux étaient clairs, sa figure franche, elle était jolie, certes, d'une autre beauté brune, plus douce, plus avenante, plus cordiale, pour ainsi dire, que la beauté majestueuse et troublante de la Focamore. C'était la jeune femme simple, charmante, dont on devine la loyauté et la bonté, et qui laisse, dans le regard droit de ses yeux, deviner la sincérité de son âme. Le chevalier lui dit alors « Tu sais que tu es chez toi ici. Par conséquent, arrange-toi comme tu l'entends. » Peu après, Pietro vint annoncer le dîner. La jeune femme prit le bras de Martin Numa et nous passâmes dans la salle à manger. La table était, comme l'avait dit le chevalier, ornée de fleurs rares et chargée de Christ de Venise de forme exquise. Le dîner fut charmant. La jeune femme, qui parlait assez facilement le français, se montra tout à fait gracieuse. Le chevalier semblait transfiguré. Il écoutait avec ravissement le bavardage d'oiseaux de Ginetta. Il lui rappelait certaines anecdotes qu'aussitôt elle racontait avec des rires délicieux. Après dîner, on passa dans le petit salon où Pietro, sur une table en bois de Gênes artistement travaillée, avec des marqueteries précieuses et des moulures de bronze doré admirables, disposa le service à café. La jeune femme vint à la table et dit au chevalier « Voulez-vous me permettre de jouer le rôle de la jeune fille de la maison ? Je t'en prie. » Très gentiment, elle nous servit alors notre café. Puis, pendant que nous achevions nos verres de liqueur, tout en savourant le cigare, la jeune femme se glissa légèrement dans le grand salon. Nous entendîmes bientôt le grand piano chanter sous des doigts merveilleusement artistes. Nous passâmes ensuite dans le grand salon et nous nous assîmes dans les fauteuils. Elle nous fit entendre divers morceaux d'une exécution magistrale. Puis, venant au chevalier, elle dit « Maintenant que je vous ai montré que j'avais fait des progrès, je vais vous jouer pour vous quelque chose d'autrefois. Quelque chose de chez nous. Moins savant peut-être et moins difficile que ces morceaux de concert, mais sûrement plus poétique, plus touchant. J'espère que vos amis comprendront, eux aussi, le sentiment de ce que je vais vous faire entendre. »